Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, ravi de vous retrouver. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour nous être autant fidèles chaque dimanche à 19h30. Ce soir, nous accueillons encore un invité exceptionnel et on va tout de suite le rejoindre. Bonsoir, Joey Fritzonga.
Bonsoir.
Je vous êtes à l'aéroport, hein, Joe, on ne va pas le cacher aux auditeurs. Votre avion décolle dans 3 quarts d'heure, c'est ça, pour Nice ?
Exactement.
Alors, je ne suis pas seule ce soir pour vous passer sur le grill, Joe. Comme chaque dimanche, je suis avec Benoît Lallemand, le chef des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Joe. Et bonsoir à tous.
Et nous avons beaucoup bonsoir, de demain. Questions à vous poser, Joe, sur votre saison, votre avenir, sur le tennis français, l'Open d'Australie, où vous n'êtes malheureusement pas présent, et bien sûr sur Novak Djokovic qui a été expulsé ce matin et ne tentera pas de remporter un 10e titre à Melbourne, un 21e en Grand Chelem. Une affaire non sans conséquences pour le numéro 1 mondial, notamment pour son image. Nous le verrons dans le sondage réalisé par Odoxa pour Kenéo et RTL. Et nous retrouverons également notre envoyé spécial en Serbie, Vincent Serrano. Vous restez avec nous, Joe. Nous vous retrouvons dans un instant. Auparavant, je sais que vous aimez le foot. Voici les résultats de l'après-midi. Bonsoir, Quentin Vasselin.
Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à tous.
Lyon se relance.
Oui, victoire poussive de l'OL sur la pelouse de 3, 1-0, 3 dans l'aube. Pénalty litigieux transformé par Moussa Dembélé.
Bordeaux a sombré à Rennes.
Oui, les Bretons infligent un 1-7 aux Girondins. 6-0 pour Rennes contre Bordeaux. Les bourreaux se nomment Terrier, Bourigeau, Laborde, Truffert et Guirassy, auteur d'un doublé. Bordeaux est avant-dernier du championnat. Première victoire pour Philippe Clément sur le banc de Monaco. Les joueurs de la Principauté s'imposent tranquillement contre Clermont 4-0 avec notamment les 11e et 12e buts de Ben Yedder, co-meilleur buteur du championnat. Strasbourg renverse Montpellier, victoire 3-1 des Alsaciens grâce à 3 buts dans le dernier quart d'heure par Waris, Thomasson et Gamero. Lorient et Angers se neutralisent 0-0. Enfin, Metz bat Reims 1-0. Ibrahim Agnan entretient l'espoir pour le maintien pour les Lorrains.
Et à 20h45, Marseille reçoit Lille. C'est bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Joe Wilfried Tsonga est donc notre invité ce soir. Joe, avant de parler de votre actualité, nous avons envie d'avoir votre sentiment sur l'affaire Djokovic. Le numéro 1 mondial, on le rappelle aux auditeurs, a été expulsé ce matin d'Australie. Son visa a été annulé par le gouvernement. Il ne défendra pas son titre à Melbourne, ne soulèvera pas une 2e fois le trophée du tournoi et surtout n'aura pas l'opportunité de gagner son 21e Grand Chelem. Alors ces 2 dernières semaines, ce feuilleton à rebondissement a monopolisé l'attention de la planète tennis. Comment vous avez vécu cela à distance ? Et d'abord, avec Benoît, on avait une question à vous poser. Est-ce que vous êtes vacciné, vous, Joe ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis vacciné. Depuis, j'ai eu le Covid en fin d'année dernière. Donc voilà, je n'ai pas encore la 3e dose. Mais pour l'instant, il ne faut pas que je la fasse. Donc voilà. Oui, je suis bien vacciné. C'est vrai que ça a été une histoire, je pense, qui a dépassé même... on va dire la sphère du tennis, c'est allé assez loin parce que moi j'y suis un peu loin de la sphère du tennis en ce moment et malgré tout j'entends tout le monde en parler de cette histoire. Moi le sentiment que j'ai c'est déjà beaucoup de tristesse pour lui parce que voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est dommage qu'une histoire comme ça puisse aller aussi loin. Je connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est vrai que ça fait toujours un peu de peine parce que moi j'ai joué beaucoup contre Novak. C'est quelqu'un quand même a priori de très respectable et voilà. Et c'est vrai que c'est dommage que ça aille aussi loin. Mais en même temps, sur le fond. Les règles australiennes sont assez claires. Il faut être vacciné pour jouer et il semblerait que, d'après la justice australienne, qu'il n'ait pas rempli toutes les cases pour pouvoir entrer sur le continent, enfin en Australie. Et donc voilà. Et les règles, c'est les règles. On est bien placé pour savoir que des règles, ça se respecte. Qu'on fait du sport et malheureusement, le verdict est tombé. Et je pense que c'est triste pour Novak, pour le tournoi, pour les joueurs à qui on a enlevé évidemment beaucoup de lumière à l'entrée de cette saison en fait, qui risque d'être palpitante. Et voilà un peu mon sentiment.
Benoît Lallemand.
À votre avis, Joe, est-ce qu'il s'est vu un peu trop tout puissant ?
Bon, non, je pense que c'est bon. Je crois que sincèrement, il part d'un opinion. Comme je disais, moi, ce qui me rend juste triste, c'est qu'on enferme les gens pour leurs opinions. Ça aurait peut-être être pu fait de manière un peu plus soft. Je sais pas comment ça aurait pu être fait différemment, mais c'est vrai que ça aurait été chouette que ce soit fait un peu plus soft et pas forcément d'enfermer. Après, c'est comme je disais encore une fois, hein, c'est les règles de ce pays-là. Pour jouer, il fallait les respecter. Et malheureusement, peut-être qu'il s'est entêté. Pour probablement ses raisons à lui qui sont peut-être bonnes pour lui, mais malheureusement, c'est comme ça.
Il a eu une exception, une exemption pour venir jouer. Est-ce que Craig Taylor, le patron de la Fédération australienne et de l'Open d'Australie, a aussi sa part de responsabilité là-dedans?
Pour tout vous dire, moi je suis tellement loin de tout ça que c'est difficile pour moi de vous dire. Évidemment, si j'avais contribué, entre guillemets, à faciliter son entrée dans le pays, je pourrais vous dire, mais pour le coup j'en ai aucune idée. Savoir le vrai du faux dans cette histoire, je crois qu'on il n'y a personne qui est vraiment habilité pour le faire, sauf les personnes, évidemment, qui sont concernées.
Dernière question sur ce dossier-là, avec vous, Joe. Est-ce qu'il va devoir se vacciner s'il ne veut pas compromettre la suite de sa saison?
C'est une très bonne question. Il faudra lui poser. Mais je sais que il y a des pays, évidemment, qui ont des règles un peu moins strictes que les...
Que l'Australie, mais aux États-Unis, il faut être vacciné.
Que les anglo-saxons, en règle générale. Mais oui, si effectivement, s'il y a un tournoi où il doit être vacciné, il faudra qu'il se vaccine, s'il veut y participer, du moins.
Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons bien sûr sur cette affaire Djokovic. Nous irons notamment en Serbie retrouver notre envoyé spécial, Vincent Serrano. Joe Wilfried Tsonga, on a envie de savoir d'abord comment vous allez, parce que depuis 2020, depuis septembre, et votre blessure au dos, votre corps vous a laissé peu de répit. Ça a été un petit peu le cas pendant toute votre carrière, mais là, ça a été quand même complet.
Ouais, ça a été difficile, là. Ça a été une longue traversée du désert. J'ai eu un problème au dos qui m'a pas lâché, hein, et qui malheureusement était pas vraiment que je pouvais pas réellement soigner. J'ai vu tous les médecins du monde qui m'ont tous dit un peu la même chose, que il y avait que le temps qui allait faire passer ça. Ils savaient pas si ça allait durer 6 mois ou 6 ans. Ils en avaient aucune idée, parce que il y a beaucoup d'arthrose. J'avais beaucoup d'arthrose et c'est venu se loger sur une articulation qu'on appelle la sacro-iliaque. Ouais. C'était long, et j'avais aucune idée du moment où j'allais plus avoir mal, parce que j'avais mal en marchant, en dormant, enfin toute la journée en fait, en étant debout. Ça a été compliqué. J'ai pensé maintes et maintes fois à me dire que c'était peut-être le temps d'arrêter, et en même temps j'ai toujours voulu terminer la tête haute avec tous les soucis que j'ai eu dans ma carrière au niveau physique. Je trouvais ça dommage que ça se termine comme ça, que ça se termine sur ça. Donc j'ai persisté et depuis cet été, ça va beaucoup mieux. J'ai voulu faire un retour à l'US Open, peut-être un peu prématuré, où je me suis fait mal à un mollet, mais rien de grave. Et du coup, je me suis dit, allez, je prends vraiment toute la fin de saison pour continuer à travailler et essayer d'arriver en forme sur le début de saison 2022.
Benoît, voilà.
Vous dites terminer la tête haute. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, et qu'est-ce que ce sera terminer la tête haute, et qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez encore comme ça, parce que ça doit pas être facile.
En fait, pour moi, terminer la tête haute, ça n'a rien à voir avec ce que les gens en pensent ou tout ça. C'est juste quelque chose de très personnel, parce que tout le parcours que j'ai pu faire depuis que je suis tout petit, c'est malgré tout beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Pour jouer au tennis, et pour faire ce sport qui a toujours été ma passion, et j'ai envie de terminer en ayant un niveau de tennis correct, en étant compétitif, en étant capable encore de battre de très bons joueurs, et pas en étant à la maison ou sur un lit d'hôpital. Et c'est juste très personnel. Et j'ai envie, pour moi, pour tous les efforts que j'ai donnés pour ce sport et déterminer de la meilleure des façons possibles.
Est-ce que dans cette quête-là, il y a une notion de plaisir qui existe ou pas du tout? Parce que ce que vous racontez là, c'est beaucoup de difficultés et même de souffrances.
Oui, bien sûr, mais enfin, souvent on parle c'est comme dans tout, on parle souvent de ce qui va pas et on a du mal à mettre le point sur tout ce qui va. Évidemment que si on me demande de signer sur une page, si on me demande de signer en bas de la page en me disant que c'était sûr que j'allais faire une carrière comme ça, j'aurais signé il y a bien longtemps. Donc, aujourd'hui, non, ma carrière est hyper positive, je suis heureux, j'ai eu la chance de fonder aussi une famille, j'ai une vie extraordinaire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de cultures différentes, des moments d'émotion grâce au tennis exceptionnels. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de terminer sur une bonne note et pas sur quelque chose d'un peu maussade.
Est-ce qu'il y a un petit regret justement de ne pas être en Australie, de ne pas avoir eu une invitation dans ce tournoi qui vous a révélé en 2007 comme un certain Novak Djokovic que vous aviez affronté cette année-là en finale? Il y a un petit regret de ne pas être à l'autre bout du monde?
Bien sûr, il y a un petit regret, mais après, aujourd'hui, ça ne tient qu'à moi. Je veux dire, c'est que j'étais blessé, donc j'ai perdu mon classement, donc je ne rentrais plus dans le tableau final. Donc, je peux en vouloir qu'à moi-même de cette situation. C'est comme ça. J'ai demandé évidemment au tournoi s'ils pouvaient m'inviter. Ça a été compliqué parce qu'il y avait d'autres joueurs un peu dans ma situation, comme Andy Murray. Et puis évidemment ils ont un échange de wildcard avec la fédération française de tennis à qui j'ai évidemment aussi demandé pour moi c'était quand même assez symbolique d'aller en Australie pour ma reprise et finalement
c'est Lucas Pouille qui a eu cette wildcard.
Ouais, tout à fait, c'est Lucas que j'encourage d'ailleurs, qui j'espère va retrouver son meilleur niveau le plus vite possible. Donc ils m'ont demandé ils m'ont gentiment fait comprendre que j'étais trop vieux et qu'ils privilégiaient la jeunesse. Voilà. Donc, je comprends. Hein, c'est leur politique. Ils font bien ce qu'ils veulent. Donc ça va juste repousser finalement mon retour sur les cours et c'est dommage parce que c'est un tournoi qui me tient à cœur, mais en même temps ça ne tenait qu'à moi d'être assez bien classé pour y être.
36 ans, 260e mondial aujourd'hui, comment vous pouvez rentrer dans les tournois justement, Joe?
Comment je pourrais rentrer dans les tournois, pardon?
Oui, comment vous faites aujourd'hui? Parce que c'est quoi votre programme? Vous avez un classement protégé, c'est ça? On peut expliquer au grand public ce que c'est?
Oui, alors le classement protégé, c'est un classement en fait qui est gelé quand un joueur est blessé plus de 6 mois. J'ai aussi un classement protégé. Il y avait un classement Covid, c'est-à-dire cette période de Covid a généré en fait quand même pas mal d'interrogations sur le classement et du coup ils ont octroyé aux joueurs des classements protégés Covid et moi c'est celui-là dont je vais pouvoir bénéficier pour jouer quelques tournois sur ce début d'année.
Concrètement, quel est votre programme pour ce début d'année? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement?
Alors pour l'instant je suis inscrit à Quimper, enfin je vais jouer certainement à Quimper dans un challenger en Bretagne. Je vais jouer aussi à Montpellier et ensuite soit je rejouerai un challenger ou éventuellement j'ai fait la demande pour une wildcard à Rotterdam, mais bon, je suis pas certain de l'avoir. Ce sera certainement un challenger et ensuite je demanderai une wildcard à Marseille ou...
Il y a de grandes chances de l'avoir quand même à Marseille, j'espère pour vous quand même.
À Marseille, il y a des chances que je l'ai.
Vous parliez de votre famille tout à l'heure, Joe. Vous êtes papa aujourd'hui de deux petits garçons. Ça passe avant tout, la famille, aujourd'hui?
Oui, honnêtement, ça passe avant tout. Là, pour moi, c'est... voilà, ça a été quand même une révélation, parce que, comme je disais, hein, on fait beaucoup de sacrifices, on est loin, on est souvent très très seul. Beaucoup de gens pensent que c'est évidemment très très excitant, cette vie, ça l'est. Mais il y a aussi, voilà, là, un peu l'envers du décor, qui est qu'on est souvent quand même relativement seul. Et donc, bah, du coup, pour moi, ça a été une révélation, ces petits bouts de chou. Et puis avec ma chérie, c'est vrai qu'on a, voilà, on s'éclate. Et aujourd'hui, bah, ma priorité numéro un, évidemment, que c'est...
On a vu d'ailleurs une très jolie photo. Hein. Vous êtes assez discret sur votre vie, mais on a vu une très jolie photo familiale pour ce début d'année. Vous êtes aussi très investi au niveau des jeunes. Vous avez une académie. C'est important de transmettre ?
Oui, alors en tout cas, ça l'était pour moi. Voilà, comme je disais, parce que souvent, il y a les discours qu'on doit rendre ce qu'on a reçu, tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai tendance à plutôt donner plutôt que rendre. Voilà, j'ai eu la chance dans ma vie, beaucoup de gens qui m'ont donné beaucoup de choses, que ce soit bah, des conseils, de l'amour, plein de choses. Et moi, je considère que bah, voilà, c'est maintenant à mon tour de donner à nouveau parce que j'aime ça en fait. Donc j'ai envie de donner. Et, voilà. Et aujourd'hui, bah, on me le rend bien parce que ça me rend heureux.
Benoît ?
Quel regard vous portez sur le tennis français aujourd'hui, qui n'est pas dans une période très très simple ?
Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un renouvellement de personnages, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que bah, y a toute notre génération qui va doucement s'éclipser, et puis c'est une nouvelle qui va prendre la relève, et qui est en train de prendre la relève. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Chaque joueur a été centième mondial avant d'être numéro 10 ou numéro 1, donc voilà, faut laisser le temps au temps. On sait vraiment pas ce qui peut se passer. Peut-être que dans 3-4 ans, on aura un jeune qui a 15 ans aujourd'hui qui sera un crack. Peut-être que ça sera un joueur qui est déjà là aujourd'hui et qui va se révéler et qui va continuer à progresser énormément et qui va prendre le lead. Donc voilà, aujourd'hui. Honnêtement, moi, je suis pas inquiet. Le plus important, c'est que bah, autour de ces jeunes, on y mette beaucoup de bienveillance et qu'on les aide à continuer à progresser.
Avant de vous quitter, Joe, et de vous laisser aller prendre l'avion, je vous propose d'accueillir Émile Leclerc, le directeur d'études de Doxa. Le baromètre de la semaine réalisé pour Kenéo RTL portait justement sur le début de la saison de tennis. Nous reviendrons sur les résultats concernant l'affaire Djokovic. Mais avant de vous laisser embarquer, je voulais que vous réagissiez aux résultats concernant les questions sur le tennis français. Bonsoir, Émile.
Bonsoir.
Il y avait deux questions à imposer hein, sur le tennis français.
Oui, la première question qu'on a posée, c'est effectivement sur le niveau, alors à court terme, hein, sur la saison à venir, puisque vous le savez, en 2021, aucun Français ou aucune Française n'avait atteint un huitième de Grand Chelem, ce qui est une première depuis le début de l'ère européenne. On a demandé aux Français s'ils pensaient que les tricolores allaient faire une meilleure saison cette année. Eh bien, les Français sont assez pessimistes, hein. 57% des Français nous disent que non, et la moitié, 50% des amateurs de tennis. Donc il y a un vrai pessimisme sur le tennis français, à court terme en tout cas. Et quand on leur demande quels sont les joueurs les plus attendus cette saison, bah, du côté des hommes, c'est effectivement Gaël Monfils, hein, donc la génération de Joe qui arrive en tête devant Hugo Gaston et Hugo Humbert. Et chez les femmes, c'est Caroline Garcia, Alizé Cornet et Kristina Mladenovic qui sont les plus attendues cette saison.
D'ailleurs, Joe, votre pote Gaël, il a gagné à Adélaïde la semaine dernière. Sans Djokovic, qui était normalement dans sa partie de tableau à l'Open d'Australie, il peut faire quelque chose, vous y croyez ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il a une vraie carte à jouer. Il joue très bien en ce moment, il est en forme, il se sent bien, on le voit. Il est bien en ce moment dans ses pompes et donc voilà, donc aujourd'hui bah, y a pas de raison en tout cas visible qu'il aille pas loin dans cette Australian Open avec un tableau qui lui tend un peu les bras. Donc, il peut vraiment faire quelque chose cette année, je pense.
C'est qui le favori pour vous de l'Open d'Australie?
C'est une très bonne question. Pour moi, ça reste quand même les jeunes là, Medvedev, Zverev, Medvedev, Zverev. Pour moi, c'est ces deux-là vraiment qui se détachent en ce moment un peu du reste du peloton. Mais voilà, attention, il y a pas mal de jeunes aussi qui arrivent. qui ont vraiment faim et on va voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est palpitant et on sent que il y a un changement qui s'opère et ça fait du bien parce que parce que c'est vrai que moi j'ai souffert un peu de, ils m'ont martyrisé les 3 ou 4 là donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir des nouvelles têtes, même si évidemment ce qu'ils ont fait devant moi c'était juste hors du temps et je pense que ça va le rester un petit moment.
Est-ce que ça restait, c'est la dernière question, après je vous lâche parce que je sais qu'il faut que vous montiez dans cet avion, mais est-ce que d'avoir été avec les trois monstres, notamment Federer, Nadal, Djokovic et un peu Murray aussi, c'était un honneur, mais aussi ça vous a un petit peu, entre guillemets, pompé l'air parce que ça vous a un peu gâché votre carrière?
Ouais, alors, pompé l'air, c'est pas le mot.
C'est le mot qui m'est venu à l'instant.
Quand on est français, et puis que finir, je sais pas, 5e mondial, ça suffit pas. C'est vrai que c'est un peu frustrant, parce qu'on se dit, peut-être que j'aurais pu contenter encore plus les gens. Mais moi, personnellement, honnêtement, ça a quand même été un challenge à chaque fois, et c'était palpitant, parce que... c'était un énorme challenge. Faut se rendre compte qu'en fait, dans un grand chelem comme ça, pour gagner, il nous fallait en battre 3 à la suite. C'est-à-dire qu'il nous fallait battre Federer en quart, Nadal en demi et Djokovic en finale. Je vous avoue que déjà quand vous sortez d'un match contre eux, vous avez les jambes qui tirent un petit peu. Alors quand il y a une deuxième lame, et puis la troisième lame, c'est l'hôpital. Hein, donc, je suis hyper fier d'avoir pu jouer avec eux, évidemment, de les avoir battus très souvent aussi. Je pense que je fais partie des seuls joueurs qui les a battus très régulièrement quand même. Donc c'est une vraie fierté d'avoir pu être sur le terrain avec eux. Et évidemment que j'aurais préféré être le meilleur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Malheureusement, si je devais choisir, j'aurais choisi. Mais là, c'est le jeu qui décide.
Et nous, on était très fiers de vous avoir ce soir avec nous. Merci beaucoup, Joe Wilfried Tsonga.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Bon vol et puis à très vite sur les cours, surtout.
À bientôt.
Au revoir.
Restez avec nous après une petite pause. Nous revenons sur l'affaire Djokovic notamment. Nous irons en Serbie.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Alors vous êtes bien sur RTL. Hein. Avant la pause, nous avons commencé l'étude du baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL qui porte cette semaine sur le tennis. Émile Leclerc, vous êtes toujours avec nous ?
Je suis toujours là.
Ce sondage était aussi l'occasion d'avoir la perception des Français sur l'affaire Djokovic.
Effectivement, et comme le disait Joe tout à l'heure, ça a largement dépassé le monde du tennis, puisque 85% des Français ont entendu parler du conflit. Et c'est plutôt dévastateur hein, pour Novak Djokovic en termes d'image. D'abord, les deux tiers des Français qui en ont entendu parler ne comprennent pas la position de Novak Djokovic, alors que l'exigence des autorités australiennes est largement soutenue, hein, 81%. Et ensuite, en termes d'image, eh bien, ça a des conséquences assez fortes, puisque 55% des Français nous disent que ça dégrade l'image qu'ils ont de Djokovic, en sachant qu'elle était déjà assez basse. Hein. Il y a quelques semaines, on avait interrogé les Français sur le joueur qu'ils préféraient entre les trois, Nadal, Federer et Djokovic. Et Djokovic arrivait toujours en dernier du classement. Donc c'est une affaire très, très négative pour son image, pour l'image du Serbe.
L'Open d'Australie débute la nuit prochaine. Émile, quels sont les favoris ?
Eh bien, il y avait Novak Djokovic qui était quand même testé dans notre sondage, qui arrivait deuxième derrière un certain Rafael Nadal. Et ensuite, on retrouve Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Donc, on verra si ce tournoi est l'occasion pour la nouvelle génération de prendre la main, en sachant qu'il n'y a que Nadal qui sera là cette fois-ci.
Merci beaucoup, Émile Leclerc.
Merci à vous.
Bonne soirée. En Serbie, le président Vučić parle, lui, d'une chasse aux sorcières organisée contre Novak Djokovic. Bonsoir Vincent Serrano.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Belgrade. C'est vraiment ce que pensent aussi les Serbes que vous avez rencontrés depuis le début de la journée ?
Oui, bien sûr, puisque ici, Novak Djokovic est présenté vraiment comme le fils de la nation. Et quand vous parlez avec des Serbes dans la rue, peu importe les générations, l'âge, le sexe, enfin voilà, tout le monde parle de lui comme si c'était un héros, vraiment. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a senti que ça avait un peu changé. On parle quasiment plus d'un héros, mais d'un martyr, Mučenik, comme on dit en serbe. Et il faut vraiment pas dire du mal. Alors, c'est pas unanime, mais il faut vraiment pas dire du mal de Djokovic ici. Et c'est par exemple ce que m'a dit Milita, en fait. J'ai discuté avec elle et je vous propose de l'écouter parce qu'elle a vraiment le point de vue général des Serbes sur cette histoire et ce qui est arrivé à Novak Djokovic.
Ils l'ont traité comme un criminel juste parce qu'ils savaient qu'il allait gagner et entrer dans l'histoire. Alors ils nous ont fait croire que c'était le vaccin, mais c'est clairement le meilleur. C'est encore plus un héros en Serbie et il n'a plus à nous prouver qu'il est le numéro 1.
Voilà, c'est vraiment ce que tout le monde pense ici, c'est que on suit tellement Novak Djokovic qu'en fait au final on suit tellement le tennis, on est au couteau, on sait combien il a gagné d'Open d'Australie, on sait combien il a gagné de Grand Chelem, et cette histoire elle est vraiment vécue comme un échec. On a tout fait pour faire en sorte que Novak Djokovic ne devienne pas le plus grand joueur de l'histoire. D'ailleurs, dernière chose, il y a vraiment un truc qui est frappant, c'est que même dans les médias, dans les journaux, à la télévision, on présente jamais Novak Djokovic comme le numéro 1 à l'ATP, mais c'est toujours le plus grand joueur de tennis du monde. C'est vraiment comme ça qu'on parle de lui.
Il s'inquiète aussi pour la suite de sa carrière ?
Là, bien sûr, parce que je viens de vous le dire, ils suivent très bien le tennis et ils savent que voilà, ce qui vient de se passer à Melbourne peut se passer par exemple sur les autres tournois du Grand Chelem. Et c'est ce que me dit Miloš, c'est qu'il est vraiment inquiet pour l'avenir de son joueur préféré.
Je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir, ce que va être son avenir sportif en général. Comment vous allez le recevoir à Roland-Garros, à l'US Open, à Wimbledon? Je ne sais pas comment les gouvernements des pays vont agir, s'il pourra jouer, quelles règles vont être suivies. Ils doivent se réunir et prendre une décision sur la vaccination.
Voilà, ils savent très bien que Novak Djokovic, dans tous les cas, dans leur cœur, est le plus grand joueur de l'histoire. Mais est-ce que ça va suivre dans les chiffres ? Ça, on n'a pas très bien sûr.
Merci beaucoup, Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Belgrade. L'Open d'Australie commence donc demain. Quentin Vasselin, quelles sont les principales affiches d'ailleurs ?
Mais il y a des Françaises sur les cours. Fiona Ferro, alors à forte affaire contre Svitolina. Kristina Mladenovic devrait être battue contre la Suissesse Belinda Bencic, 22e mondiale. Ashley Barty, numéro 1 mondial à domicile. Elle affrontera Tsurenko. Chez les hommes, Gaël Monfils affrontera Coria, duel de tricolore entre Corentin Moutet et Lucas Pouille, et on pourra suivre aussi les premiers pas de Nadal et Zverev.
L'actualité sportive de ce dimanche, rapidement Quentin, c'est aussi le biathlon avec une performance XXL pour Quentin Fillon-Maillet.
Et le français leader général de la Coupe du Monde de biathlon s'impose encore dans la poursuite de Ruppolding, c'est le 5e succès de la saison pour lui. Dans la spécialité, c'est des résultats exceptionnels qui lui valent d'être comparé à Björn Dahlen et à Fourcade. Voilà, donc rien que ça. Et puis un petit mot de rugby, parce que c'était la Coupe d'Europe, la 3e journée, le Leinster n'a pas fait de détails. Les Irlandais explosent Montpellier 89-7. 13 essais pour infliger la plus grosse défaite du rugby tricolore dans l'histoire de la Coupe d'Europe. En ce moment, Clermont fait 19-19 contre Sale et Bordeaux-Bègles a gagné 45-10 contre Clanecly.
Merci Quentin. Benoît Lallemand, j'imagine que demain, dans les pages sport du Parisien, vous reparlerez de l'affaire Djokovic, parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à dire.
Bah évidemment, on essaiera de savoir un peu quelles peuvent être les conséquences pour lui, sportivement, en termes d'image et en termes de sponsors. On parle pas beaucoup, mais sans doute que les sponsors regardent avec un œil très intéressé ce qui se passe. On aura des réactions avec des Serbes, évidemment, qui sont tout en mesure. Hein, on a pu
on
le voir.
Ils parlent de martyrs, hein, d'ailleurs. Eux,
oui, hein. D'assassinats, de martyrs, de chasse aux sorcières. Enfin bon, on comprend un peu pourquoi il réagit aussi un peu comme ça. Avec, en fait, une question. Est-ce qu'il va se vacciner désormais, puisque c'est un peu la seule issue pour lui s'il a envie de continuer à gagner les tournois.
Merci beaucoup Benoît Lallemand, Le Parisien à lire dès 23h30 pour les abonnés numériques. Merci à Quentin Vasselin, merci à Lucas Dindeleu et Thibault pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouvez RTL Foot avec notamment OM Lille à partir de 20h45.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, revivre ensemble.